La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Je suis Thierry Rouquet, le pasteur de l'église protestante baptiste de Toulouse. Je vous invite pour ce jour à regarder un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, les versets 11 à 26. Il s'agit de la fin de la vie terrestre du Christ quand il comparaît devant le gouverneur de Judée, en l'occurrence Ponce Pilate. Et j'aimerais qu'on s'attarde surtout sur le verset 24 qui nous montre Pilate accomplir un geste assez particulier en se lavant les mains pour bien se déclarer innocent finalement du sang, comme il dit lui-même, de ce juste. Alors je m'en lave les mains, ce sont les propres paroles de Ponce Pilate, c'est une expression courante qu'on entend en tout cas dans souvent autour de nous, mais je pense que peu de personnes qui l'utilisent savent réellement l'origine de cette expression. D'où l'intérêt de regarder ce texte et d'essayer de comprendre quelle était la portée de ce geste, en tout cas pour Ponce Pilate, et ce que la Bible peut en dire. Donc nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, les versets 11 à 26. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit : « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ? » Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire : « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? » Tous répondirent : « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit : « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort : « Qu'il soit crucifié ! Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit : « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Vous avez bien noté au verset 24, Pilate, débordé par la pression de la foule, par la vox populi, prend de l'eau, se lave les mains en présence de la foule comme témoin et affirme : « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Alors là, ce geste hautement symbolique de se laver les mains a fait l'objet d'enquêtes, de réflexions. Et il faut le dire, quand cette expression est employée par nos concitoyens, « je m'en lave les mains », elle est souvent utilisée soit pour exprimer un désintérêt, soit pour se positionner dans une espèce de neutralité, soit pour ne pas avoir à assumer les conséquences d'une décision, soit plus précisément pour ne pas porter la culpabilité d'un acte que l'on ne veut pas cautionner. Avoir les mains propres, en quelque sorte, de façon imagée. Une étude récente, très sérieuse, menée par des chercheurs français à Grenoble, a conclu que se laver les mains abaisse notablement le niveau de culpabilité. Les sociologues et les psychologues ont expliqué ce phénomène par l'universalité du rituel du lavement des mains qui est associé à la purification. Pour les personnes qui font ce type d'ablution, eh bien, psychologiquement en tout cas, elles sont dans une posture où, inconsciemment, elles établissent un lien entre la propreté physique et la propreté morale. En réalité, qu'en est-il? Et c'est là une question importante. Qu'est-ce qui peut laver réellement la conscience? Est-ce que de l'eau peut laver la conscience? On est d'accord que dans cette période que nous avons passée de pandémie avec la Covid, il était nécessaire effectivement de se laver régulièrement les mains et même de se mettre du gel hydroalcoolique. Mais est-ce que pour notre conscience et ce qui pourrait tarauder notre conscience, cette eau peut exercer une quelconque purification notoire? Et puis, à la suite de cette question, on pourrait aussi dire, mais qu'est-ce que la conscience, en tant qu'instance de jugement, comme autorité? Que faut-il penser de ce qu'on appelle aussi le fort intérieur en tant qu'instance de jugement? Pour répondre à ces questions, je vous invite à regarder ensemble une situation où Jésus a confronté des Juifs extrêmement religieux, au demeurant, en les plaçant face à leur conscience. Il s'agit, vous savez, de cette fameuse scène dans l'évangile de Jean au chapitre 8 où les pharisiens amènent devant Jésus une pauvre femme qui aurait été prise en flagrant délit d'adultère pour savoir ce que Jésus allait faire pour le coincer en quelque sorte, pour savoir si Jésus respectait réellement la loi du Deutéronome. Et donc ces personnes qui amènent cette femme devant Jésus étaient des pharisiens, des personnes pratiquant de façon, je dirais, scrupuleuse la loi juive. Ces personnes pratiquaient donc tous les rituels de purification, et notamment les lavements des mains, les ablutions quotidiennes, lavement des ustensiles pour cuisiner, lavement des mains. La confrontation de Jésus va mettre en évidence dans cette situation que ces personnes étaient toujours en réalité, tout en pratiquant ces ablutions, ces personnes étaient toujours sous le contrôle d'une forte culpabilité, en dépit de tous les efforts qu'elles pouvaient fournir pour se purifier devant Dieu. Ainsi, nous lisons dans ce fameux texte de Jean, chapitre 8, verset 9, quand Jésus leur dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre à cette femme adultère, alors il nous est dit, quand ils entendirent cela, écoutez bien, accusés par leur conscience, ils se retirèrent. Il ne faut pas croire que ces personnes étaient hypocrites, comme on le dit souvent. Bien sûr, dans tout phénomène religieux, il peut se cacher, se lover dans la pratique religieuse de l'hypocrisie, mais pas forcément. Mais en tout cas, toute personne un tant soit peu scrupuleuse et honnête pourrait faire le même constat concernant sa conscience. Il y a forcément des situations de vie, des choix que nous avons faits, des paroles prononcées, des comportements ou des situations où nous avons certainement n'avons pas été à la hauteur, et nous pouvons donc être accusés par notre conscience. Qu'en es-tu une éducation religieuse ou non, Dieu nous a créés à son image avec une conscience, c'est-à-dire une instance interne dans nos vies qui nous permet d'avoir une réflexion, c'est-à-dire un retour sur soi pour appliquer à ce que nous faisons un jugement, une évaluation, en tout cas un discernement, et ce qu'on appelle la conscience du bien et du mal. Ce que l'apôtre Paul, d'ailleurs, développe dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, il nous dit ceci, que ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, c'est-à-dire qui n'ont pas une loi externe qui leur commanderait de faire ceci ou cela, c'est-à-dire de savoir ce qui est bon ou mauvais dans telle ou telle situation. Il dit de ces personnes-là que, de toute façon, l'œuvre de la loi, il compare la loi de Moïse avec cette œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors, quelles que soient les stratégies de justification, nous nous poserons toujours des questions sur le bien fondé de nos agissements, avec bien évidemment des réponses différentes. On peut se trouver des excuses, des circonstances atténuantes, ou reconnaître sans détour notre faute, ou essayer d'accomplir quelque chose pour se disculper, peut-être pour se donner bonne conscience, s'acheter une bonne conscience, comme on dit. La question donc du bien et du mal et de ce que nous faisons avec le jugement de notre conscience est au cœur d'ailleurs de tout le système sacrificiel et des rituels de purification de l'Ancien Testament. Et c'est avec lucidité, une lucidité sans pareille d'ailleurs, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que tous ces sacrifices de réparation ne peuvent rendre parfait, je cite, « sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte ». Autrement dit, ces sacrifices-là pouvaient apaiser temporairement, mais imparfaitement, la conscience du croyant, mais pas plus. Alors qu'en est-il du sacrifice du Christ, de sa mort en croix et de l'objet de ce qui l'a poussé à accomplir ce sacrifice? Lui seul, ce seul sacrifice peut purifier complètement et définitivement notre conscience. Nous lisons toujours dans cet Épître aux Hébreux que le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint auprès de Dieu, qu'il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais qu'il a offert son sang à lui et qu'il nous a libérés pour toujours. Si cela est vrai, le sang de Christ, donc, est toujours puissant pour nous libérer et pour apaiser, purifier notre conscience et nous donner cette paix. En effet, par l'Esprit Saint, l'auteur de l'Épître aux Hébreux conclut, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, écoutez bien, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors, nous pourrons servir le Dieu vivant. Et c'est la raison pour laquelle, par ce sacrifice, nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, une confiance absolue, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience. Voilà notre espérance, voilà l'espérance des chrétiens. Car Dieu est fidèle à ses promesses et le sacrifice du Christ est suffisamment pur, puissant pour apaiser notre conscience et pour nous assurer le plein pardon de nos fautes et nous donner donc une conscience en repos, si toutefois nous croyons en ses promesses. Alors qu'a voulu exprimer le gouverneur Ponce Pilate par ce lavage des mains, par ce geste du verset 24? A-t-il voulu imiter une coutume juive? Certains l'ont pensé, effectivement, on trouve dans le Deutéronome, au chapitre 21, les versets 6 à 7, une instruction concernant les personnes qui se seraient rendues impures en ayant touché un cadavre. Et le texte leur recommande donc un lavement des mains. Certainement que Pilate veut que les Juifs qui accusent Jésus portent eux-mêmes l'entière responsabilité des événements. Je ne crois pas, de la part de Ponce Pilate, qu'il ait eu en pensée le texte que nous avons lu, enfin, dont j'ai fait allusion tout à l'heure, du Deutéronome 21, concernant une clause très spéciale dans l'Ancien Testament. Je pense que plutôt Pilate veut se disculper au regard des problèmes et de la foule qui est là, en tant que mandatée par l'empereur pour faire régner la paix dans cette région, il est impératif pour Pilate qu'il fasse attention à la façon dont il gère les mouvements de foule, et il est dans son intérêt donc d'apaiser la foule. Et donc Pilate veut que les Juifs qui accusent Jésus portent même l'entière responsabilité des événements. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin du verset 24, « Cela vous regarde ». On peut aussi s'interroger sur la profonde motivation de son geste. Pilate a-t-il peur des Juifs? D'après ce qu'on sait d'un point de vue historique du personnage de Pilate, de sa façon de gérer ses responsabilités politiques et ce qu'il a fait en Palestine, certainement pas, mais il a peur qu'on dépose une plainte contre lui à Rome auprès de l'empereur Tibère, comme quoi il aurait protégé un rebelle à Rome. N'oublions pas que Jésus est accusé de se faire roi. Et donc la crainte pour Ponce Pilate d'être faussement accusé de trahison est plus forte chez lui que ce que sa conscience lui dicte. Puisqu'il dit lui-même qu'il est juste, voire même son épouse qui a fait un songe et qui lui dit de faire attention. Nous voyons ailleurs que l'attitude de Pilate est tout dans le compromis, comme c'est souvent le cas en matière de gestion politique. Nous voyons dans l'évangile de Jean qu'il nous est dit que Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Et là, évidemment, ça touche une corde sensible chez Ponce Pilate. Quant au rêve de la femme de Pilate, qui s'appelait Claudia Procula, beaucoup se sont étonnés de voir une femme d'un haut dignitaire romain intervenir ainsi auprès de son époux dans une affaire judiciaire. Mais on a un précédent historique avec la femme de Jules César, qui fut assassinée en 44 avant Jésus-Christ en allant au Sénat. Et on sait que sa femme, en tout cas, l'aurait prévenue de ne pas y aller parce qu'elle avait fait un rêve prémonitoire de son assassinat. Donc, c'était pas forcément impossible qu'une femme d'un haut dignitaire puisse se présenter auprès de son mari pour lui donner un conseil. En tout cas, concernant l'intervention de la femme de Pilate, si effectivement elle est tourmentée, selon le texte, on ne peut pas dire qu'elle prend clairement la défense de Jésus pour qu'il soit relâché. Le geste, pour revenir à Ponce Pilate, le geste hautement symbolique de Pilate est donc motivé uniquement par la crainte des hommes et aussi pour son avancement et ses ambitions politiques. On sait ce que ce type d'ambition peut avoir comme conséquence sur les vertus, entre guillemets, et le positionnement, le comportement des hommes politiques. Ce qui nous conduit donc à la deuxième question, est-ce que la crainte des hommes, telle que Pilate en tout cas la manifeste à ce moment-là, est une preuve de sagesse, quitte à faire des compromissions avec sa conscience? On a dans la Bible deux exemples négatifs à ce sujet, Saül et l'apôtre Pierre, avant son rétablissement par Jésus, après sa résurrection. Et on a un exemple positif, les apôtres après la Pentecôte. Prenons d'abord l'exemple de Saül. Il nous est dit dans 1 Samuel 15 que « Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » C'est un texte qui nous renvoie à tout un contexte où le prophète, le juge Samuel, avait demandé à Saül de l'attendre pour faire le sacrifice, pour que Samuel lui-même fasse le sacrifice. Et donc, Samuel étant en retard, le peuple s'impatientant, eh bien, faisant pression sur Saül, Saül donc a craqué et il dit lui-même hein, « Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, etc. Je me prosternerai. Bon. » Deuxième exemple négatif, le cas de l'apôtre Pierre qui, à deux reprises, quand Jésus était amené devant le Sanhédrin, c'est-à-dire l'instance judiciaire religieuse du peuple juif à Jérusalem, Pierre avait suivi Jésus et on voit à plusieurs reprises, comme d'ailleurs Jésus l'avait annoncé et prophétisé, on le voit renier, ce qu'on appelle le triple reniement, on le voit renier son maître. Et quand il s'est fourvoyé dans l'hypocrisie aussi au sujet des fameuses agapes inclusives, vous savez, dans l'épître aux Galates, où par crainte des circoncis, c'est-à-dire des juifs qui étaient là, Pierre s'est retiré de la table commune où il y avait donc des païens convertis au Christ, c'est-à-dire des incirconcis, et des juifs convertis venant là, Pierre, donc, il est dit, par crainte de ces personnes-là, s'est retiré de la table de communion. Donc on voit là aussi l'influence que peut avoir un contexte, disons, où il y a une pression humaine faite et la conscience des uns et des autres va donc soit entrer en compromission, je dirais, en discussion et donc se fourvoyer dans ce compromis. Ou alors, la personne ne fera aucune concession malgré les pressions et tiendra ferme. Mais c'est le cas, par exemple, des apôtres après la Pentecôte. Il nous est dit dans les Actes des apôtres, au chapitre 4 et 5, que les apôtres étant convoqués par le Sanhédrin, parce qu'il y avait du trouble à Jérusalem à cause du fait qu'ils prêchaient le Christ, que Jésus était le Christ, alors ils sont amenés devant le Sanhédrin, cette instance judiciaire, religieuse, et ils répondent donc, quand on leur intime l'ordre d'arrêter de prêcher cet évangile, voilà leur réponse, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Alors, les pharisiens présents, les membres du Sanhédrin qui sont là, insistent, mais ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Pierre et les apôtres répondirent de nouveau, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alors, on voit la pression qu'il peut y avoir là sur la conscience de ceux qui ont une position précise. Et donc, on voit cette pression-là et les apôtres qui tiennent ferme. Alors, l'Écriture, bien sûr, nous demande d'être ferme. Être ferme dans la foi, c'est, à l'image des apôtres après la Pentecôte, c'est rester dans une position que nous avions prise auparavant, c'est-à-dire tenir nos engagements, quoi qu'il en coûte. Effectivement, il y a des pays, ou même des situations, tout simplement, mais des pays aussi, où cette prise de position ferme quant à la foi coûte. Il y a des situations où la foi coûte, où les pressions sont assimilables à du chantage, surtout quand ce sont des proches qui l'appliquent. Alors Pilate, au verset 24, à la fin de ce verset 24, après s'être lavé les mains, dit « Je suis innocent ». Du sang de ce juste, cela vous regarde. Je voudrais insister sur ces derniers mots. Cela vous regarde. Les chefs religieux avaient donné la même réponse quand Judas est venu rendre l'argent pris de remords. Quelque temps auparavant, dans le même chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, au début du chapitre, il nous est dit ceci. « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Et donc, la parole de Ponce Pilate fait écho à la parole du Sanhédrin. « Cela vous regarde. » Peut-on toujours dire, dans certaines situations, « Cela vous regarde » ou « Cela te regarde » comme si finalement, cela ne nous regarderait pas. Il y a des situations où Dieu nous demande clairement de prendre position, car cela regarde Dieu et notre conscience. Il y a des situations où Dieu nous demande de déclarer ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons. Ne rien dire ou ne rien faire, c'est de toute façon avoir une position. C'est de toute façon envoyer un message, mais un message équivoque. D'autre part, en disant « Je suis innocent du sang de ce juste », Pilate, en réalité, prophétise sans le savoir en déclarant « Jésus le seul juste, celui qui va mourir pour des injustes » et porter ainsi le poids immense de notre culpabilité afin qu'au travers de son Fils, le Père nous déclare juste, non coupable. Pour tous ceux qui affirment qu'il est lui-même venu pour accomplir l'œuvre du Père et ôter les péchés du monde. Alors en conclusion, je voudrais dire trois choses à propos du geste de Ponce Pilate, de ce lavement de main. Premièrement, la neutralité est une illusion. Jésus d'ailleurs l'a dit dans le sermon sur la montagne, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. La neutralité est donc une illusion. Deuxièmement, la crainte des hommes est mauvaise conseillère. La crainte des hommes, comme le dit le proverbe, tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Troisièmement, aucun rituel ou pénitence ou même excuse ne peut ôter le poids existentiel et spirituel de la culpabilité. Seul le sang de Christ a ce pouvoir. Et on sait que la culpabilité est un problème majeur pour l'être humain. L'Épître aux Hébreux nous dit combien bien plus efficace est le sang de Christ. Ni eau, ni sacrifice d'animal, ni même œuvre pour s'acheter une bonne conscience, pénitence, ne peuvent racheter nos vies. Mais c'est le Christ qui, par l'Esprit éternel, lui qui était sans défaut, lui qui s'est offert lui-même à Dieu, lui dont le sang pourra purifier notre conscience des actions qui conduisent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Alors, si nous confessons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Amen.
I'm